Talk, le podcast de l'innovation dans l'éducation. Aujourd'hui, éducation et intelligence artificielle. Usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et éducation à l'intelligence artificielle. Une synthèse de la journée d'études FEDE du mardi 22 novembre 2022.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Chers représentants de la société civile et de la conférence des ONG du Conseil de l'Europe, chers étudiants et professeurs des écoles membres de la FEDE, chers représentants d'organisations professionnelles et sectorielles.
Claude Vivier Legault, présidente de la FEDE.
L'équipe de la FEDE se réjouit que 550 personnes issues de près d'une vingtaine de pays se soient inscrites pour participer à ce séminaire de haut niveau qui a pour thème éducation et intelligence artificielle, de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement à l'éducation à l'intelligence artificielle. Et lorsque je dis 550, je suis en dessous de la réalité, car certaines organisations ont opté pour une connexion avec rassemblement de plusieurs professeurs ou étudiants devant un grand écran. Donc je présume que notre webinaire rassemble au-delà des 600 voire 700 participants. La Fédération européenne des écoles que j'ai l'honneur de présider est une ONG internationale qui rassemble à ce jour 414 écoles membres dans 39 pays. La FEDE a pour objectif principal d'accompagner des établissements d'enseignement supérieur et professionnel dans la mise en œuvre de compétences professionnelles innovantes, les hard skills, de compétences sociales, les soft skills, et de compétences citoyennes, les citizen skills. Ces trois compétences sont indissociables les unes des autres et forment le socle des quelques 180 référentiels pédagogiques élaborés par la FEDE. Pour ce faire, la FEDE noue des partenariats avec d'une part des organisations internationales telles que le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, la Commission européenne ou l'Organisation internationale de la francophonie. Et d'autre part, avec des fédérations sectorielles professionnelles telles que ETNO, pour une veille active de ces référentiels pédagogiques. Ces coopérations visent également à créer des synergies entre les travaux d'institutions reconnues, le secteur de l'éducation et le monde des entreprises. Depuis déjà 3 ans, la FEDE se pose la question des liens entre l'intelligence artificielle et l'éducation et sur l'impact que l'IA aura sur le triangle pédagogique, savoir, enseignant et apprenant. En effet, dans le rapport de 2021 de l'UNESCO intitulé « Intelligence artificielle et éducation, un guide pour les décideurs politiques », on estime à 6 milliards de dollars la valeur que représentera l'IA dans l'éducation en 2024. L'IA a un impact exponentiel sur l'éducation, générant des opportunités, mais aussi de nombreux défis. Or, l'éducation à l'IA ne consiste pas seulement à enseigner et à apprendre en utilisant l'IA, mais aussi à enseigner et à comprendre l'IA, la littératie IA, un mot qui est le même en anglais et en français. En abordant à la fois la dimension technologique et la dimension humaine, souvent oubliée de l'IA. Dans ce cadre, la FEDE, qui est membre du comité droits humains et intelligence artificielle de la conférence des ONG présidée par Gilbert Flamme, souhaite proposer des recommandations aux décideurs politiques sur l'impact de l'IA dans de nombreux domaines, médias, justice, sécurité et éducation notamment, qui est l'objet de ce webinaire. Après cette très rapide introduction contextualisant la réunion d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 experts qui présenteront leurs travaux et leur opinion sur la thématique. Tout d'abord, Janice Richardson. Elle est actuellement en Australie et nous lui avions demandé d'enregistrer une vidéo pour vous que nous avons découpée en 2 courtes séquences. La première, qui démarrera le webinaire, plante le décor et contextualise. La seconde, qui interviendra après Jean-Noël Vallée, pose les questions et les défis à relever. Elle est experte en éducation à la citoyenneté numérique chez Insight SA et membre des conseils consultatifs des entreprises de réseaux sociaux Snapchat, Meta, Facebook et Instagram, Twitter. Et elle présentera les enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation et abordera les nombreux défis que la généralisation de l'IA pourrait impliquer. Ahmet Muratçilik, qui est présent, est directeur de programme du service de l'éducation au Conseil de l'Europe. Il présentera les travaux du CDE en matière d'intelligence artificielle et éducation à la citoyenneté numérique du point de vue politique. Et j'en profite pour remercier Ahmet de sa fidélité aux côtés de nos travaux et aux côtés des travaux des ONG. Wayne Holmes est professeur associé à l'Université College London et est auteur principal du rapport du Conseil de l'Europe « Intelligence artificielle et éducation, une vision critique à travers le prisme des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit », publié en octobre 2022, il y a à peine un mois. Il est l'un des spécialistes les plus reconnus des liens entre l'intelligence artificielle et l'enseignement et abordera le thème d'aujourd'hui sous l'angle de la recherche. Le professeur Jean-Noël Vallée est professeur des universités, praticien hospitalier, chef de neuroimagerie et stimulation cérébrale, neurosciences de la vision. Il nous présentera ses travaux sous le prisme suivant, du jumeau numérique des systèmes du vivant en santé à l'hypothèse du jumeau numérique des processus cognitifs d'apprentissage pour une éducation personnalisée. Il sera notre seul scientifique, Jean-Noël. Puis nous aurons la deuxième partie de la courte vidéo de Janice, avant d'attaquer le point de vue du terrain au travers de Ross Krillmann, qui est responsable des politiques publiques au sein de l'Association des opérateurs européens de réseaux de télécommunications, ETNO, chargé des dossiers IA. Il nous présentera le travail de l'ETNO sur l'IA au niveau européen et abordera la question des compétences et notamment la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en IA dans les entreprises des télécoms. Et après cette crainte et ce constat de pénurie de main-d'œuvre, nous clôturerons les présentations avant de passer la parole aux ONG et aux étudiants et aux professeurs, à Emmanuel Ferreira, et Abdelhaim Rafrapi, tous les deux docteurs en intelligence artificielle et professeurs au sein de l'école membre de la FEDE, Nextech. Ils feront un état des lieux de l'acculturation à l'IA et présenteront leur opinion en matière de pédagogie et de l'IA, notamment auprès des publics spécialisés. Grâce aux présentations de ces spécialistes, nous pourrons ouvrir les débats en essayant de répondre aux questions suivantes. Le développement de l'intelligence artificielle et de ses usages bouleverse-t-il le secteur de l'éducation? Sachant que la loi s'inscrit dans la durée, tandis que la technologie évolue dans l'immédiateté, quelles recommandations faire aux décideurs politiques pour réglementer l'utilisation de l'IA dans l'éducation? Les outils assistés par l'IA sont de plus en plus utilisés en classe, sans aucune preuve indépendante de leur efficacité. Que faut-il faire pour que lorsqu'ils sont amenés à interagir avec des outils commerciaux assistés par l'IA, les jeunes soient correctement protégés? Comment les ONG peuvent-elles contribuer à garantir le droit à l'éducation en tant que responsabilité publique dans un monde de plus en plus impacté par les technologies?
Janice Richardson, experte chez Insight SA en éducation à la citoyenneté numérique, membre des conseils consultatifs des entreprises des réseaux sociaux Snapchat, Meta, Twitter.
Good morning everyone. Education is a fundamental human right. It therefore has to be safe, secure, transparent, accessible for all, before looking at the role of artificial intelligence in education. I think it's important to remember that 1.6 billion children across the world don't even have access to internet. This was an alarming figure we discovered during the COVID pandemic. And these 1.6 billion young people had their education stopped or disrupted during the pandemic simply because they couldn't get online. Back in the middle of the 1990s, when we were really struggling to understand how we could begin integrating technology into education, the UNESCO Commission set up under the leadership of Jacques Delors, decided that in fact education, to be meaningful in the 21st century, should be built around four pillars: learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. The Council of Europe has further worked on this concept and in fact have come up with a model called the Reference Framework for Democratic Culture, where we see there are once again four areas: knowledge, skills, values, and attitudes. These are broken down into 20 competences. And I think it's important when we think of digital technology and artificial intelligence that we analyze how can we put across these competences, what sort of values, in fact, is AI bringing to education? 21st century literacy is very complex. First, we need functional literacy. Young people need to be more literate than ever to read between the lines and really understand what is being said in the information thrown at them. Media information, to work through those representations and really get a clear information, not an information pushed out by someone with a message to sell. Social emotional learning, we go back to attitudes and values. How can we teach this with AI and digital education? Digital, of course, it's absolutely essential for young people to understand how to use the tools of their time, but it needs to be done with the knowledge, with the pedagogy of teachers, because there are so many things they need to learn. But today we've gone much further. We've reached a point where we need to have digital citizenship in education so we can understand our rights and responsibilities, the impact of digital on identity, but also the interconnectedness of online and offline. We all need to be socially responsible, which is far more difficult when we're online. And as I said, creativity, innovation, extremely important, but it is difficult to see how AI can be used to promote this. Participation in society, because finally, that's the end goal of being a citizen. More than 80% of young people say that their first place to go to is YouTube. Now, we know there are many issues already with YouTube and similar. You choose one video, you get a whole stream of videos. How are they selected? Simply by profiling, by the gathering of your data and decisions being made for you. School programs were hardly used at all, not even 30%. Online libraries, even less. Online museums, and yet there we can find culture, we can find heritage, and these are young places that it seems very important young people go to learn. How did they learn? Well, the majority learned with friends, brothers and sisters, siblings, of course, far less with instruction from school.
Ahmed Murat-Chilik, Directeur de programme, Service de l'éducation, Conseil de l'Europe.
Today, I will briefly talk about our work on artificial intelligence and education. Compared to some other organizations or in the overall in the landscape, the Council of Europe has started, or we have started a little bit late, looking into the implications of AI in education or on education. But still, in the early days, back in 2019, in our recommendation, or the Council of Europe's Committee of Ministers recommendation to member states on developing and promoting digital citizenship education, we have touched base on possible implications of AI. I would like to just go through with you some of them. By the same token, developments in the AI field can deeply impact interactions between educators and learners and among citizens at large. This means that it may undermine the very core of education, that is the fostering of free will and independent and critical thinking via learning opportunities. Also, although it seems premature to make wider use of AI in learning environments, professions in education and school staff should be made aware of AI and ethical challenges it poses in the context of schools. So the most obvious challenges include the risk of excessive profiling of learners, the overuse of big data and learning analytics that might overstandardize educational goals and learning outcomes, and the potential harm caused by algorithm-driven discrimination and exclusion biases, as well as the infringement of learners' rights and privacy arising from the possible commercialization of data. So then in 2020, we launched a new intergovernmental project, and the project aims to explore the implications of AI and AI-based technologies. As you can see, I use them interchangeably because apparently there is no consensus even on the definition of AI, as some of you already witnessed during our recent conference. There are, you know, different definitions of this. So we rather use AI, AI-based technologies and applications interchangeably. And those on education, how this can be deployed in education for building democratic competences, enhancing inclusion and improving education opportunities. So the report builds on the prescient observations and concerns mentioned in the recommendation to explore in detail the connections between AI and education through the lens of the Council of Europe's core values. It is deliberately critical, and sometimes people think we are very critical, which I understand, but it is critical about AI and education, considering both the opportunities and the challenges. It doesn't mean that we are critical, that we are against AI and its use in education, but in contrary, we want to make sure that this will serve. I mean, the aim is to provide a holistic view to ensure that AI empowers, not overpowers educators and learners, or you can say citizens in general, that future developments and practices are genuinely for the common good. So the initial findings, which were presented at our recent conference, are general AI policies and strategies exist, but those covering AI in education are limited or non-existent in many countries. In terms of teaching about AI, the theme of preparing to live with AI appeared to still be something that is mainly talked about only in computing studies. So AI literacy is predominantly considered in higher education, and we don't see much of the presence of Council of Europe values in those policies, and governance of AI in education policies and strategies are few and limited, and not to mention about the weakness of monitoring evaluation at this stage. What comes next? So in this discussion, issues mentioned by participants included research needed on efficacy, effects on teaching, and curriculum from teachers' perspective, potential inherent conflict of interest for young people in the deployment of AI, where systems are demanding for resources, and effects on the climate, and conflict of value versus cost. In the UK, there's a case that in school, facial recognition is used for payment in the school canteen. So because then there's a limited time for lunch, and the students are waiting in the queue, in order to avoid queues, you pass and then it reads from ICE and then somehow deducted from your wallet, etc. But this is a solution. You can call this a solution. What would be the alternative solution, which has less social effects or impacts on society, is that you make the food free if possible. I mean, then you don't have queues or people don't wait to pay. So it's imposing AI, that's the solution, or AI-based technologies. This is one thing, but also trying to find, broader holistic solutions for societal problems or issues that is maybe more sustainable, in my opinion.
Wayne Holmes, professeur associé à l'University College London, auteur principal du rapport du Conseil de l'Europe Intelligence artificielle et éducation, une vision critique à travers le prisme des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit.
To understand how AI is affecting education, we first need to think a little bit about AI generally. In fact, what AI has achieved is particularly impressive, from beating the world's best player of Go to automatically identifying diabetes from retinal scans and helping protect against fraud, to name just a few of the many successes. But AI is not as sophisticated as many argue, and there are many myths. Here's one: a myth that AI is better than humans at image recognition. So when you look at this image, I'm sure that you can recognize the panda. And in fact, the AI agrees with 57.7% confidence. But what happens when we mix this image with some noise? Well, we get this. Now, I'm sure you'll still recognize this as a panda. And now, in fact, the AI is 99.3% confident. Unfortunately, confident that it's a given. Another myth is that AI doesn't need people. But also, that's not true. A human sets the objectives. A human chooses and cleans the data. A human labels the data. In companies like this, in developing countries like Kenya, the workers spend all day identifying the objects in streams of video. Here's a person, here's a car, here's another person. These labelers are known as the ghost workers of AI. But also, a human designs the network and writes the algorithms and trains the network. And then a human curates the outputs and makes the final value judgments. So the idea that AI doesn't need humans just doesn't stack up. So in summary, AI can be impressive, but it's not as impressive as many people claim. So what about AI and education? Now, AI does bring some interesting possibilities to education, but instead of being yet another cheerleader for AI and education, my focus is on the very many challenges. So you might think I'm a bit negative, but I like to think I'm bringing a critical but constructive perspective. In fact, the connections between AI and education are more complex than many recognize, and there is a lot of hype and exaggeration. That's why we shouldn't talk about AI and education as if it were one thing. It's not one thing, it's multifaceted, and each connection needs to be considered separately. I like to navigate that complexity in terms of two buckets: the application of AI in education and the teaching of AI in education. These are two distinct but complementary aspects of AI in education. So what about student-focused AI? Well, the reality is this is where all the money is and where the focus has been for more than 40 years, which is why there are so many different types. I'm going to summarize just a few. To begin with, there's the so-called intelligent tutoring systems, or ITS. The list on the right are just some of the multi-million dollar funded companies that are already offering this kind of tool. In summary, the system provides the student with some information and an activity or quiz, and how the student responds determines the next piece of information, activity or quiz. This adaptivity means that in theory, every student follows their own pathway through the material to be learned. Then there's automatic writing evaluation, mostly for formative assessment, but increasingly being used for summative assessment. There's also what I call learning network orchestrators, which use AI to connect people together, like Smart Learning Partner from Beijing Normal University. And what I particularly like about this tool is that it's the student who's in charge, not the AI. Then there's chatbots, which are increasingly being used to provide immediate support to students, mostly about practical things, such as where's my next class. There are many other, as we've seen, student-focused applications. What some call AI literacy for all citizens, from young children through to adult learners. This involves both the human and the technological dimensions of AI, but it's rarely seen that way. While the teaching of AI does involve a technological dimension, how AI works and can be created, there's also the human dimension, the impact of AI on humans, on human rights and ethics, how we can deal with AI hype, AI biases, fake news, and so on. And I believe that the teaching of AI needs to bring together both the technical and human dimensions of AI interwoven throughout any course. The problem is that all too often, the human dimension is forgotten or minimized, tagged on to the end of a course. What are the claims made by many AI and education companies, and how do they stand up? First, many claim that their AI education tools are intelligent. But I'm here to tell you, they are not. No AI education tool is anywhere near as intelligent as a human teacher. It's true that sometimes they might appear intelligent, but that's a long way from actually being intelligent. But even if you reject my concerns, if you think I'm making a fuss, we still don't really know if any of the AI tools actually do what they claim to do. Where's the evidence? The reality is that almost no commercial AI ed products have been independently evaluated at scale. It's almost all just marketing. If the AI ed tools are so good, where are the robust, independent, randomized controlled trials? There are almost none. And most importantly, so that our young people and other learners are not experimental subjects. Algorithm decision-making AI tools that are increasingly being used need to be specifically legislated before being more widely used. So we finished our paper with a list of key needs, things that we think need to be thought about more deeply, such as the need for more evidence and less hyperbole, appropriate regulation, avoid or maintain poor pedagogic practices, curricula that addresses both the human and technical dimensions of AI, ethics by design, multidisciplinary approaches, AI in education that prioritizes and facilitates human rights, democracy, and the rule of law. So in conclusion, to be clear, personally, I'm not saying that AI or AI in education are always bad. I still believe that there is some amazing potential. But I am criticizing current applications of AI in education and the way things are currently developing. In my opinion, we need to change the trajectory. What do we want our education systems to achieve? Students with lots of exam certificates? Or independent, creative, critical thinkers who are able to help society develop most effectively for the common good? That's the choice. And that will help decide the right kind of AI in education. So what I am saying is that AI is amazing, but not as amazing as many people claim. AI is already having a major impact in education, and it has the potential to transform aspects of education for good. But if we're not careful, also for bad. We need to avoid simply automating poor pedagogic practices. We need to recognize that embedding commercial AI tools in classrooms is a commercialization of education by the back door. And we need to use the power of AI to develop innovative approaches to teaching and learning that address real problems.
Jean-Noël Vallée, professeur des universités, praticien hospitalier, chef de service de neuroimagerie et stimulation cérébrale, neurosciences de la vision.
Donc, les jumeaux numériques puisent leurs origines dans les systèmes dits en miroir ou environnement simulé, créés par la NASA dans les années 70, pour surveiller les espaces physiques inaccessibles, tels que les engins spatiaux en mission. Donc, la première application la plus célèbre des jumeaux numériques est celle de la mission Apollo 13, lorsque l'un des réservoirs d'oxygène a explosé 2 jours après le lancement. Les solutions techniques ont été simulées dans un environnement virtuel à distance et transmises aux astronautes pour assurer le retour de l'équipage sur Terre. C'est donc en 2002 que Michel Hirige a formulé le concept de jumeaux numériques sur la gestion du cycle de vie des produits pour la fabrication. Ces jumeaux numériques font appel effectivement à des notions d'intelligence artificielle et plus exactement, on parlera d'intelligence augmentée. Pour ce qui me concerne, les jumeaux numériques dans le domaine médical, eh bien, avant tout, les jumeaux numériques, le jumeau numérique est un concept récent, issu donc de l'industrie 4.0, de la transition numérique, permettant la fusion des espaces physiques et virtuels pour créer le système cyberespace défini comme un système embarqué. Les objectifs sont de modéliser par ordinateur des systèmes physiques complexes en vue de simuler et de tester des stratégies ou scénarios de fonctionnement pour prédire le comportement et les performances des systèmes afin de les optimiser mieux qu'il n'est possible dans le cadre de la vie réelle. Pour ce qui me concerne le secteur de la santé, qui est à l'ère de la transition numérique, a pour objectif de développer une médecine personnalisée ou de précision, prédictive, participative, de preuve et de parcours. Concernant le concept de jumeaux numériques, encore appelé double virtuel ou réplique virtuelle ou avatar numérique, est l'entité virtuelle d'un jumeau physique qui est l'entité réelle. En santé, le jumeau numérique est la représentation virtuelle d'un système complexe du vivant ou non sur son cycle de vie, créé par modélisation mathématique, statistique, algorithmique de l'intelligence artificielle à partir des données propres du système. Le système peut être un être humain ou un organe, un processus physiologique, cognitif, physiopathologique, un médicament ou une prothèse médicale, un groupe de personnes ou une population. L'objectif est d'améliorer ou d'optimiser la qualité et la sécurité des soins en permettant de visualiser, comprendre, tester, prédire ce qu'on ne peut pas voir, depuis l'effet d'un médicament sur la maladie jusqu'au résultat d'une intervention chirurgicale, et ce, avant même que le patient commence le traitement. Alors, la médecine personnalisée, eh bien, c'est donc l'objectif actuellement sur lequel la médecine, enfin, les jumeaux numériques se concentrent. Le jumeau numérique humain s'inscrit dans la dynamique de la médecine personnalisée de précision et proactive, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à chaque patient de manière anticipative. Elle permet de simuler virtuellement différentes thérapeutiques et de prédire l'efficacité et la toxicité du principe actif d'un médicament à différents dosages et ainsi de concevoir la stratégie thérapeutique la mieux adaptée au profil exact du patient avant même d'avoir pris le traitement. Les données sont effectivement la source extrêmement importante à partir desquelles sera créé le jumeau numérique. Elles sont celles qui réalisent une véritable empreinte numérique du patient, c'est-à-dire caractérisant le patient dans toutes ses composantes et dimensions. Ces données, elles sont très nombreuses, elles peuvent être des données omiques, c'est-à-dire génomiques, biomiques, protéomiques, métabolomiques, des données de la cytologie, l'histologie, la biologie, de l'anatomie, physiologie, hémodynamique, métabolisme, du phénotype, également morphologique, fonctionnel, cognitif, comportemental, émotionnel, psychologique, toute une quantité de données qui peut ressortir des études cliniques, de l'imagerie tomodensitométrique ou des IRM fonctionnelles, de l'électrophysiologie. Elles comprennent également les données démographiques, environnementales et de mode de vie. Donc ces données, effectivement, c'est une part extrêmement importante à laquelle il faudra attacher la plus grande précaution. Les limites techniques, elles sont liées effectivement aux accès techniques des données, aux capacités de stockage et de calcul qui dépassent largement les capacités humaines et nécessitant d'externaliser les données vers des puissants serveurs cloud. La qualité des données, elles sont aussi liées à la complexité des logiciels d'interface. L'éthique, et la cybersécurité du jumeau numérique sont des enjeux extrêmement majeurs, puisque les données de santé sont des données sensibles. La protection, la confidentialité, la sécurité des données personnelles sont primordiales. Les données de santé font l'objet d'une protection particulière par le Code de la santé publique et la violation du secret entourant ces données est réprimée pénalement. Concernant l'éducation et les jumeaux numériques, il n'y aurait qu'un pas. Et là, nous sommes tout à fait dans le domaine de l'hypothèse pour ce qui me concerne. Mais par analogie aux jumeaux numériques humains qui s'inscrit dans la dynamique de la médecine personnalisée et proactive, on pourrait émettre l'hypothèse d'un jumeau numérique des processus cognitifs humains qui s'inscrit dans la dynamique de l'apprentissage personnalisé ou de précision et proactif, c'est-à-dire adapté à chaque sujet et de manière anticipative. Au stade de l'hypothèse, il permettrait de simuler virtuellement différentes stratégies pédagogiques, de comprendre comment s'articulent les mécanismes cognitifs impliqués, d'optimiser la progression et l'évolution de l'apprentissage, et ainsi de concevoir les stratégies pédagogiques les mieux adaptées au profil du sujet avant même d'avoir commencé à apprendre.
Ross Krillman, responsable des politiques publiques au sein de l'Association des opérateurs européens de réseaux de télécommunications, ETNA.
My name is Ross Krillman and I'm a public policy manager at ETNO. ETNO is the European association representing the major telecoms network operators in Europe. So among our members, you will no doubt know some familiar names, Deutsche Telekom, Telefonica, Orange, Proximus, etc. Artificial intelligence is very much touching many parts of our businesses and our association. It sits across all of these buckets, impacting our companies specifically as we develop and use AI in our networks and our other business operations. But it also forms an important part of the conversation in Brussels and the international policy discussion. Briefly, how do our companies use AI in a very broad manner of ways, not only in the operation and the management of our networks, but also when it comes to energy efficiency, fraud detection, and customer service. But our association is an association of public policy experts, so I want to look at how our lawmakers in Europe and beyond are dealing with emerging technologies, and where is the link and the fine line between regulation and innovation. I don't want to repeat too much of what has been said, but the policy landscape in Europe is framed by a number of initiatives coming from different bodies. At the global level, next slide, please. At the global level, the OECD did and continues to do considerable work on AI, captured in the OECD's AI Policy Observatory. And indeed, the OECD definition of AI has been used to inspire legislative projects at various levels. We've heard today from the Council of Europe, which has also led the way on dealing with AI within the context of its own remit, the impact of and regulation of AI when it comes to democracy, human rights, and the rule of law. And on this point, something that our association follows very closely is the Committee on Artificial Intelligence. The Council of Europe upgraded its ad hoc committee on AI to a full committee, which is now in the process of drafting a treaty on AI whose work is ongoing. 2023 is the European Year of Skills, and this touches many areas. One thing that I want to talk about is the digital decade. In 2021, the European Commission set some targets for what they call the digital decade. For the 10 years ahead, things they want to see to achieve a digital economy and society in Europe. And part of this is about making Europe's business, public sector, more equipped for that digital age and for the green and digital transitions. And a major part of this, one really important section, is skills, which includes ICT skills and the skills to design and work with AI. By 2030, the European Commission wants to see 20 million ICT specialists in Europe, with a much higher proportion of women in that sector than today, and 80% of the European population having basic digital skills. And as I say, 2023 is the year of skills set by the European Commission, and this is receiving very high political attention. It will be discussed at a meeting of the Council on the 6th of December. Coming back to our association and our sector, EDNO members invest in our society not only through the deployment and maintenance of next generation connectivity, and by this we mean fiber and 5G, but also through investment in skills and rewarding employment. In fact, the telecom sector is seeing a shift in the type of skills needed to work there. A greater emphasis on higher skilled ICT experts, which has also encouraged programs in tandem with academic institutions and has boosted in-house internal upskilling programs to retrain and provide new skills for existing employees. And indeed, this is one of the reasons, the fundamental reasons why EDNO has a memorandum of understanding with FEDE. We intend to create synergies to facilitate students' access to professional opportunities in what we believe is an exciting and evolving sector. And we want to meet the skills requirement of our members, the companies, to ensure they have the qualified workforce they need in the future. And perhaps a final message to students and those looking for opportunities in the tech sector today. The telecom sector in Europe is at an extremely interesting moment, adapting to the challenges of digitizing the economy and society as a whole, and meeting the goals of transforming the way we live and work, and also contributing to reducing society's impact on the planet. Telcos are an extremely fascinating place to see that change and make it happen. And the way we get there, the way you get there, is of course for through skills.
Abdelalim Rafrafi, fondateur et directeur de Data Twinov, docteur en intelligence artificielle.
On parle depuis le début de l'IA, on met tout sur le dos de l'IA, mais est-ce que c'est le problème de l'IA aujourd'hui où on est? On parle de digitalisation, on parle de tous les problèmes, il faut commencer à parler de la data avant de parler de l'IA. L'IA, ça n'est un outil pour éventuellement travailler autour de la data. L'IA nous apporte une intelligence qui est née dans le cerveau d'humain. L'humain, il a une capacité d'aller reconnaître des problèmes, à les savoir, les résoudre. Tout ça, pourquoi? Car il a la capacité de s'adapter. S'adapter à tout problème, à toute situation qui peut se présenter devant lui. Et aujourd'hui, on est en train de servir, encore une fois, un humain avec des solutions à base du digital. On ramène tout sur l'IA. Mais est-ce que c'est vraiment le problème? Est-ce que c'est l'IA qu'aujourd'hui qu'il faut qu'elle pose problème? Est-ce que c'est pas aujourd'hui de la data qu'il faut contrôler avant éventuellement de commencer à contrôler l'IA? L'IA, ce n'est qu'un outil. Un outil parmi les outils qu'on utilise aujourd'hui pour digitaliser. Mais si on veut contrôler quelque chose, il faut commencer à contrôler la donnée.
Avec NextTech, j'interviens à Paris aussi, c'est de pouvoir donner plusieurs compétences à nos étudiants. Ce n'est pas une, ce n'est pas un informaticien, une informaticien et une autre compétence. Un matheux, une autre compétence. Un métier, une autre compétence. Et là, du moment qu'on a deux compétences, on va pouvoir éventuellement arriver à aller dans ce domaine de data et ce domaine de l'IA. Donc, on parle de l'IA, et ça fait peur à tout le monde, mais l'IA, avant l'IA, il y avait l'intelligence humaine. L'intelligence humaine qui a permis aujourd'hui à l'humain d'arriver à un stade où il est. Du moment qu'il était sur Terre, il a commencé à y réfléchir, à s'adapter. Il a créé de la donnée. Et aujourd'hui, on lui met en face une intelligence, on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle partira d'où? Elle partira de ce que l'humain il va mettre sur Terre en data. Et donc, l'IA, elle va pouvoir aller servir l'humain. Pour qu'on puisse arriver à mettre des solutions aujourd'hui qui vont être utilisables dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, dans tous les domaines, il faut qu'on inverse la pensée de tout le monde. Les gens, ils ont tendance à croire que l'IA va remplacer l'humain. Mais si on regarde plus loin, on dit, pourquoi pas, on va mettre en place des nouveaux outils et que l'IA deviendra un outil comme n'importe quel outil qu'on utilise aujourd'hui. On utilise les ordinateurs, on utilise tout ce type d'outils. Aujourd'hui, il faut éventuellement arriver à mettre des nouveaux outils qui vont être au service de l'IA, l'humain.
Emmanuel Ferreira, cofondateur et directeur scientifique d'iWay, docteur en intelligence artificielle.
L'IA, ça, en fait, c'est un domaine très, très vaste. Et on voit qu'il est assez ancien, en fait. Hein. On peut remonter à des travaux, même pour aller au-delà de 1950. Mais en fait, c'est un sujet englobant hein, qui va comprendre autant la logique formelle que, en fait, ce dont on parle ici un petit peu, c'est l'apprentissage machine, c'est apprendre à partir d'exemples et donc de données. Donc, plutôt une filière qui va se développer autour des années 90. Et encore plus spécifiquement aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on va dire qui a fait une résurgence en fait en 2012, qui est la révolution de l'apprentissage profond, hein, de la capacité à pouvoir entraîner des modèles un peu plus gros. Et surtout en 2018 aussi, autour de la révolution des gigamodèles, donc des modèles qui apprennent avec la masse qu'on a amassée finalement sur Internet, souvent, donc autant de la masse de photos, la masse de textes, pour simuler en fait encore mieux peut-être l'intelligence. Et ce qui est un peu hype aujourd'hui, c'est essentiellement autour de ces thématiques-là, hein, donc qui sont une sous-partie finalement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, il y a un champ des possibles qui est en pleine extension, notamment au travers des gigamodèles. Et forcément, comme ça a très bien été illustré par Denis, par tous les intervenants hein, quasiment, on mentionnait ça, ça ouvre en fait des questions sociétales très fortes aujourd'hui. Sur, effectivement, ça ouvre des opportunités géniales, notamment comme ce que va proposer Jean-Noël Vallée, les jumeaux numériques, des choses comme ça. C'est des choses qui sont vraiment à forte opportunité, mais aussi, ça a des risques, parce que, effectivement, ce n'est pas parfait, ce n'est pas magique, en fait. Et notamment, ça doit être aussi régulé, parce qu'il y a effectivement des tentatives pour réguler l'IA, et donc ça, c'est des très bonnes choses, et donc il faut enseigner, pas sur le hype, mais sur comment, en fait, finalement, enseigner ben, cette dualité, c'est-à-dire à la fois les opportunités qu'on peut avoir et les risques et impact sociétal que ces technologies ont donc développé, ce qu'on appelle l'esprit critique, ce qui a été mentionné par les précédents intervenants. On voit qu'en fait, il faut acculturer les gens parce que souvent, il y a une vision un peu floue de l'IA. Et donc, l'IA, en fait, ce n'est pas magique. Donc, il faut en connaître les grands principes, ses limites, et ça, ce n'est pas optionnel. Il faut comprendre aussi que l'IA, c'est un élément qui évolue, c'est-à-dire que les techniques d'aujourd'hui, ce ne sera pas les techniques de demain. Et donc, il est important d'enseigner aux gens quand même la manière de suivre les avancées en la matière. Et on a de la chance un petit peu quand même dans l'eau, c'est qu'en fait, quand même, les ressources d'IA sont quand même majoritairement en open data et en open review et en open code aussi. Donc, en fait, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à suivre. Et aussi, il est très important de suivre les garde-fous, donc au travers des données, comme l'a évoqué tout à l'heure Abdelrahim, les données aussi dans sécurité, cybersécurité, les risques cyber. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand les données qui servent à alimenter nos IA sont piratées, par exemple? Ça a été posé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme réglementation? Et donc, ce qu'on va chercher en premier lieu, c'est développer l'esprit critique des apprentis. Donc, j'ai eu l'impression que c'était un peu la crainte tout à l'heure qui avait été évoquée. Mais en fait, je pense que c'est la base de toutes les formations en IA, c'est déjà d'acculturer les gens et de développer un esprit critique pour leur montrer qu'en fait, ce n'est pas un outil magique, mais c'est un outil qui suit des règles. Et ces règles-là, en fait, une fois qu'on comprend en fait pourquoi ça a dévié, on est à même, par exemple, l'exemple de l'image de tout à l'heure où on mettait du bruit et ça détecte que ce n'est plus un panda, en fait, avec une très forte confiance. En fait, ça a une explication logique. Quand on regarde l'algorithme, quand on passe de l'autre côté de l'écran et qu'on arrive à expliquer pourquoi, en fait, ces systèmes-là dévient et quelles sont les mesures qu'on peut mettre face à ça. L'autre besoin, c'est le besoin de spécialisation, c'est-à-dire aller vers les métiers de l'IA, donc des compétences qui sont hautement recherchées aujourd'hui, donc tout ce qui est data scientist et data surtout engineers, le MLOps, tout ce qui va être le maintien des systèmes IA en production. Donc, on a pas mal eu des parts d'efforts sur la conception des algorithmes, mais en fait, il y a un gros sujet aussi, c'est comment on les maintient et comment on évite aussi qu'ils dérivent et comment on les améliore pour qu'ils couvrent, par exemple, des minorités qui ne sont pas couvertes par un modèle. Donc, tout ça, l'IA, c'est un modèle mouvant, et donc c'est très important aussi de former les gens à comment maintenir ces systèmes. Et donc, dans notre formation, c'est pour approfondir ces concepts et susciter quelque part des vocations. Slide suivante. L'idée, c'est après, du coup, d'avoir une IA, comment dire, au service de l'éducation. Donc, l'avantage majeur, comme je disais tout à l'heure, c'est que les ressources en IA sont hautement disponibles. Et donc, on peut jouer avec et finalement développer un esprit critique grâce aux ressources en ligne. Et donc, on va pouvoir jouer assez facilement avec ces données-là, les revues des articles et tout, pour arriver finalement à construire un sens critique sur l'IA. On a un domaine aussi suffisamment vaste, puisque l'IA est appliquée à plein de secteurs, et attrayant, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des sujets passionnants, en fait, l'IA. Et donc, quelque part, on peut s'adresser pas que à des gens forts en maths, en fait, mais à tous les secteurs d'activité, parce que c'est un outil qui est en train de se démocratiser, et on peut quasiment faire du clic-bouton. Donc, il faut forcément aller vers des utilisateurs avertis, à minima, puis des experts, et enfin, une sous-partie, peut-être des concepteurs.
Claude-Vivier Legault, présidente de la FEDE.
On se rend compte que vous posez un petit peu la question aujourd'hui de la littératie, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre quelque chose qu'on ne maîtrise pas et puis la magie. Tout le monde sait qu'un avion ne vole pas de façon magique. Pour autant, autour de cette assemblée, peu de personnes savent faire décoller un avion ou savent comment ça marche. Donc, l'intelligence artificielle, on l'a vu, avait besoin de code et d'éthique, puisqu'on touche les données, qui manipule ces données, quel traitement aurons-nous de ces données. On pose des vraies questions. La question scientifique, on l'a vu avec le professeur Jean-Noël Vallée, on peut aller très, très loin, on peut aller... On intervient dans l'être humain, on peut créer un deuxième être humain. Et puis, cette question de la littératie, qui est abordé, c'est le B.A.B.A., arriver à familiariser tout le monde avec l'intelligence artificielle.
Pour suivre nos podcasts, inscrivez-vous à notre newsletter sur www.fede.education, sinon en consultant nos réseaux sociaux. À bientôt.